Nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Nous avons bien là une manifestation de cette sobriété, de cette concision remarquable de l'Évangile et l'on peut dire en général de la parole de Dieu. Voilà un récit qui occupe cinq petit verset, peu de phrases, c'est très court, et cependant, c'est un de ces morceaux délicieux, un de ces récits particulièrement délicieux et riches d'enseignements pour nous. Nous voyons bien que l'Évangile est parole de Dieu. Il s'agit là donc de Jésus dans la maison de Marthe et de Marie. Un rapprochement, bien sûr, est à faire avec Jean 11 et Jean 12. Et dans ces deux chapitres, Jean 11, c'est le chapitre de la résurrection de Lazare à Béthanie. Alors là, nous retrouvons les mêmes personnes, Marthe, Marie, et en plus leur frère Lazare, qui est mort et qui va être ressuscité. C'est une famille qui habite à Béthanie, près de Jérusalem. Et puis au chapitre 12, nous retrouvons aussi les personnages de Lazare, de Marie, et de Marthe, et tout cela se passe à Béthanie. D'ailleurs, dans le chapitre 11 de Jean, le verset premier est celui-ci, « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Donc, nous savons où se situe ce récit que nous donne l'Évangile selon Luc, dans son chapitre 10. Nous pourrions peut-être nous étonner de ce qu'il ne nous soit pas dit, soit pas parlé de Lazare, par exemple, soit pas dit, bien, ça se passait dans la maison de Lazare, ami de Jésus, dans ce petit village de Béthanie. Mais c'est que les évangiles sont indépendants les uns des autres. Ils ont été rédigés indépendamment les uns des autres, ce qui fait d'ailleurs, n'est-ce pas, apparaître même plus nettement encore la vérité qu'ils ont pour but de nous livrer. La maison où Jésus et ses disciples, ce n'est pas précisé, mais bien sûr les disciples ne sont pas restés à la porte, la maison où ils entrent, est appelée la maison de Marthe. La maison de Marthe. Non pas la maison de Lazare, mais la maison de Marthe. Celle-ci était donc considérée comme la maîtresse de maison. La maison lui appartenait-elle? C'est pas absolument certain. Ce qu'on peut dire, c'est que, étant la maîtresse de maison, elle était très probablement l'aînée des deux sœurs. Tout simplement. Et c'est elle qui gouvernait la maison. Elle était occupée, nous dit tout de suite ce récit, à divers soins domestiques. Cela, évidemment, nous le comprenons, c'était pour recevoir dignement cet hôte magnifique, cet hôte de marque, qu'était le Seigneur suivi de ses disciples. Et le Seigneur, elle le connaissait comme celui à qui Dieu ne refuse rien, selon la déclaration qu'elle fait elle-même dans Jean 11. En s'efforçant de bien traiter le Seigneur et sa suite, elle ne pouvait que témoigner du respect, de l'amour et de la joie de cette circonstance qui lui était offerte, préparer un souper pour tout ce monde, les 12 disciples et le Seigneur, n'était pas chose si facile en peu de temps. Le Seigneur ne disposait pas de beaucoup de temps, il venait d'arriver et il y avait certes beaucoup à faire. Ainsi, bien des considérations justifient l'activité que Marie se donne, et nous le voyons dans le texte, elle est occupée à divers soins domestiques. Son empressement à préparer le dîner me paraît louable, il exprime la chaleur de son cœur, peut-être même y avait-il à préparer une étape de la nuit pour tout ce monde. C'était le zèle d'un service nécessaire, d'un service utile, et nous le dirions volontiers aujourd'hui, d'un service pour Dieu, rendu à Dieu. Et tout cela est bien vrai, et il importe que nous le regardions, que nous le voyons, au commencement de notre méditation. Nous pouvons même dire que d'une façon générale, chacun doit accomplir la tâche que Dieu lui a donnée en ce monde. Il ne s'agit pas de négliger sa maison, sa famille, pas du tout. Au contraire, il faut savoir remplir convenablement la tâche qui nous incombe. Mais bien vite, Marthe se sentira débordée par l'importance du travail qui est le sien, et elle adresse au Seigneur une plainte que nous verrons tout à l'heure plus en détail, une plainte contre sa sœur Marie, qui elle était assise aux pieds du Seigneur, et elle va demander au Seigneur d'intervenir pour que sa sœur se lève et vienne à son aide. Marie est là, assise aux pieds du disciple, dans l'attitude du disciple. Le disciple, en effet, était en général assis un peu plus bas que le maître, non pas pour marquer la différence, mais parce que c'était ainsi, il était assis en général par terre, et le maître était assis soit sur un lit, soit sur une sorte de tabouret. L'empressement de Marie était bien différent de celui de Marthe, sa sœur. Marie, elle était là, et elle cédait à son besoin d'entendre la parole du Seigneur Jésus, et cela surpassait pour elle toute considération domestique. Elle n'y pensait même plus, son esprit n'était pas dans les choses qui préoccupaient Marthe, la préparation du souper. Elle buvait la parole du Maître, car Jésus parlait. Jésus parlait. Jésus, entrant dans une maison, vous voyez, n'était pas l'hôte muet, il parlait. Ce devait être bon d'entendre celui qui, comme le dit l'évangile de Jean, celui qui parlait comme jamais homme n'avait parlé. Ce devait être bon de l'entendre. Nous aurions été contents que Luc puisse ici intercaler quelque chose, n'est-ce pas, nous donnant le contenu de cette parole que Jésus donnait à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, dans un souci de grande objectivité, l'objectivité de Dieu, la sobriété qui nous est montré, le Saint-Esprit ne l'a pas voulu, nous trouverons les paroles du Seigneur Jésus ailleurs. Mais on sait que le Seigneur Jésus a beaucoup agi et beaucoup parlé, Jean nous le dit. Si l'on devait écrire tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a dit, alors là, il faudrait des bibliothèques qui dépasseraient même la capacité du monde de ce moment. Jésus parlait et ses paroles étaient à l'adresse de ses disciples. Il ne perdait pas de temps. Il n'y avait pas de temps mort, de temps perdu dans ses journées. Il était là, il faisait étape dans la maison de Marthe et là, il continuait d'enseigner ses disciples. Pensons à cela que le Seigneur ne perdait pas de temps et que c'est peut-être une invitation pour nous à n'en jamais perdre non plus les heures qui nous sont concédées, sont précieuses. Marthe, dans son activité fébrile, elle ne pouvait pas écouter. Elle allait d'ailleurs certainement d'une pièce à l'autre, puisque il est dit que elle survint. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint. Donc, elle allait, venait, n'est-ce pas? Elle était peut-être dans d'autres pièces. Elle ne pouvait pas écouter le Seigneur. Puis quand on est trop affairé, on ne peut pas écouter la parole du Seigneur. Le seul l'attitude de Marie permettait de recueillir la parole du Maître. Nous sommes là pour nous instruire de tout ce que l'Évangile nous apporte, tout ce que la Bible, disons, nous donne. Et il y a beaucoup de choses, vous voyez, pour nous instruire dans ce beau livre qu'est celui de Dieu. Pouvons dire, en manière de méditation, que généralement, l'activité que l'on consacre au service de Dieu, activité matérielle, domestique, terrestre, cette activité dépasse, a bien vite fait de dépasser la juste mesure, et même de dépasser son but. Notre activité, ah, il est plus facile, peut-être, de se livrer à beaucoup d'activités sur la terre avec un tas de choses, que de s'adonner à la prière, que de s'adonner à la méditation. Notre esprit est plus paresseux que nos bras. Ah, volontiers, n'est-ce pas? Nos bras s'agitent, nos jambes, n'est-ce pas, marchent. Nous sommes employés à toutes sortes de choses, de préparatifs. Avec les matériaux de cette terre, les instruments de cette terre. Mais la méditation, l'écoute de Dieu, la prière, nous y consacrons souvent beaucoup moins de temps. L'activité de Marthe est louable dans son principe de départ, pourrions-nous dire, dans le désir qui l'anime. Au début, Marthe voit arriver son hôte, elle le connaît bien. Oh, on va le recevoir, c'est pas n'importe qui, et on va tout faire pour bien le recevoir. Donc, le désir est louable. Mais attention, Marthe tenait trop à ce que ce souper fut bien servi, et que ce souper même eut un bel éclat. Et, en somme, elle voulait que sa réception fût remarquée, elle voulait se surpasser, elle voulait peut-être aussi être un peu louée de cela, que le maître peut-être glissa au cours de la soirée un mot, une réflexion pour dire « Marthe, vraiment, tu sais recevoir, tu reçois, je suis heureux de cette réception que tu m'as préparée. » Mais il y a trop de part accordée aux choses terrestres. Et Marthe nous en donne là un exemple, bien sûr. Il y a trop de latitude laissée au savoir-faire humain. Ah, ce savoir-faire humain. Ah, c'est lui qui veut servir Dieu. C'est pas l'âme, c'est pas l'esprit. C'est le savoir-faire humain. Est-ce le choix de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Le savoir-faire humain. Et alors, un certain renversement s'opère. Le but premier de notre activité, de toute activité dans le service de Dieu, c'est de glorifier Dieu, certes. Mais attention, on est vite engagé dans un excès de travail, dans une recherche excessive de raffinement du bien fait, du bien exécuté, du développement donné aux préparatifs. Trop de raffinement. Et en définitive, est-ce Dieu qui est glorifié? C'est l'homme qui se glorifie. Ah! L'homme est glorifié. Prenons un exemple qui dépasse beaucoup le cadre de ce récit, mais il est là, n'est-ce pas, dans l'histoire et même sous nos yeux actuellement, ces belles cathédrales. J'ai entendu souvent des gens louer les ouvriers et ceux qui avaient dessiné, les architectes qui avaient dessiné, conçu ces magnifiques édifices, surtout, n'est-ce pas, ce style flamboyant que nous avons encore dans bien des villes de France. Alors, on loue les ouvriers comme c'est merveilleux ce qu'ils ont accompli là, n'est-ce pas, quelle tâche. Et puis, quelle pensée. Alors, d'aucuns disent, oh, ils ont, n'est-ce pas, ainsi, de cette manière-là, loué Dieu. Ils ont glorifié l'homme. Ils ont glorifié l'homme. Glorifié l'homme. Et qu'est-ce qui s'est fait sous ces voûtes-là? Sous ces belles voûtes, sous ces hautes voûtes? Eh bien, il s'est fait tout simplement une apostasie. Et l'on en est venu à un christianisme dérivé, un christianisme en déroute, un christianisme apostat, sentimental, où l'homme, lui, a repris, s'est installé dans la place d'honneur. Ah, on a vite fait l'activité, hein, ça gagne, on veut plus, toujours plus. D'où la parole du Seigneur Jésus, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, et nous pourrions lire pour beaucoup trop de choses. Tu t'agites, tu t'inquiètes, trop d'agitation, trop de préoccupations, trop de choses, trop de préparatifs savants, mais à ce compte-là, Il n'y a plus d'attachement aux choses de la terre qu'il n'y en a aux choses du ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous dit l'Écriture. Et l'on s'affectionne aux choses de la terre sous toujours le prétexte, sous l'idée du départ de servir Dieu. Ah, on va servir Dieu. Et en servant Dieu, on va en venir à glorifier l'homme. Vous savez, cette activité humaine qui se met ou prétend toujours se mettre au service de Dieu et qui ne connaît plus du tout son mobile, cette activité humaine, elle ressemble à ce que le Seigneur indique dans une de ses paraboles, les ronces et les épines étouffent le bon grain. Le bon grain, ce qui a été semé, la parole de Dieu qui a été semée, qui doit lever, qui doit grandir, porter du fruit, s'est étouffé par les soucis du monde, par les activités, les préoccupations, par les ronces et les épines. Les choses de la terre, l'Écriture nous en instruit d'une façon formelle. doivent demeurer dans la simplicité, dans la sobriété, ne point accaparer l'âme, le cœur et la dépense physique. Le cœur doit rester en haut et l'oreille tendue pour entendre la parole de Dieu. Et puis, jamais l'exigence des tâches matérielles ne doit avoir priorité sur la parole de Dieu. Jamais cela. Jamais. Il vaut mieux que l'on écoute la parole de Dieu sous un mauvais toit, dans un lieu incommode ou dehors, plutôt que d'avoir un bel ensemble, une belle salle, et d'être préoccupé par les choses matérielles. Alors la parole de Dieu, elle se retire, elle reprend à elle sa paix, elle reprend sa puissance, et l'homme se retrouve avec cette gloire qu'il ne va cesser de faire grandir, et l'orgueil va reprendre la place principale dans sa nature. Voilà à quoi l'on aboutira si les tâches matérielles ont priorité sur la parole de Dieu. Ce qui était à différer dans la réception que Marthe prépare, eh bien c'était le souper auquel elle accordait tant de soins, et non pas l'écoute de la parole du maître. Tandis que Marthe, vous voyez, n'est-ce pas, sa pensée où elle en est déjà? Ah, la parole, c'est quelque chose, oui, c'est certain, mais pour le moment, c'est le souper, c'est la préparation de la maison, c'est tout le travail qui est à faire en peu de temps. Il faut que Marie vienne aider sa sœur, laissons la parole de Dieu. Combien de fois n'ai-je pas vu cela, chers amis, dans les maisons chrétiennes, je vous le dis. Ça ne vous choque pas, mais je vous le dis parce que c'est la vérité. Et moi-même, quand je vais dans une maison chrétienne, eh bien, si j'entends trop le bruit des assiettes, des vaisselles, des casseroles, et si je vois que tout le monde s'affaire, alors que l'on voudrait disposer d'un moment pour parler de la parole de Dieu, pour s'instruire, pour s'édifier mutuellement, eh bien, je ne suis pas content. Et je sais que le Seigneur n'est pas content de cela. Simplifions les choses. Nous ne sommes pas là pour nous faire les uns aux autres non plus de larges réceptions. Nous sommes là pour peut-être partager des repas ensemble, mais dans la simplicité, dans la sobriété, mais surtout partager ensemble ce que le Seigneur a pu mettre sur notre cœur. Au moment où Jésus accorde sa présence, où il s'approche particulièrement de nous, où sa communion se resserre, où il frappe à la porte de notre cœur. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Prenons garde à cela, chers amis, à sa présence, et ne faisons pas comme le fit une fois, à une certaine circonstance, la Sulamite du Cantique des Cantiques, qui laissa le maître partir, parce qu'elle était couchée, elle s'était déjà débarrassée de ses vêtements, alors elle avait déjà lavé ses pieds, allait-elle remettre ses pieds par terre, à nouveau se vêtir de sa robe, de son vêtement, pour aller ouvrir la porte. Oh non, non. Alors elle laisse partir le maître. Ne faisons pas ainsi. Prenons garde à ces moments et sachons sacrifier. Si le Seigneur, lui, vient à tel moment, il ne viendra peut-être pas à un moment que nous aurions jugé, nous, opportun. Il viendra quand il le voudra. Il est souverain. Mais s'il vient, Soyons tout de suite disponibles. Vous savez, Dieu a le droit de bousculer les horaires de la terre et les habitudes acquises. Et j'ai vu plus d'une fois le Seigneur bousculer. Et il faut se laisser bousculer. Et même dans les réunions de l'Église, dans un culte. Si, par exemple, celui qui est le conducteur de cette Église dit, voilà, les choses devront se dérouler de telle et telle manière. De telle heure à telle heure, on chantera. Ensuite, on priera. Ensuite, on louera. Ensuite, on chantera encore. Ensuite, on prêchera la parole. Et puis, il ne faut pas que quelque chose vienne déranger à ce programme, à cet emploi du temps. J'ai connu cela dans certaines églises. Il y a des églises où des églises un peu traditionnelles où le programme est strict et jamais le Saint-Esprit n'a le droit d'intervenir là-dedans. Il n'y a pas le droit. Mais oui, chers amis, ça existe. Or, j'ai vu dans certains de nos cultes le Saint-Esprit intervenir, mais nous avions bien résolu, et j'ai toujours cette pensée que le Saint-Esprit est libre au milieu de nous, et que si nous avons dit les choses vont se dérouler ainsi, c'est peut-être pour éviter, n'est-ce pas, d'errer, d'avoir de l'incertitude, bon, mais cela ne veut pas opposer au Saint-Esprit un refus, une barrière. J'ai vu le Saint-Esprit intervenir au milieu de nos cultes, nous empêcher une fois de faire la Sainte Cène. Et quand j'ai senti que le Saint-Esprit ne voulait pas que nous fassions la Sainte Cène, là, eh bien, je l'ai dit à tout le monde, à toute l'Église, j'ai dit non, frères et sœurs, nous ne ferons pas la Sainte Cène maintenant. Il y a une opposition, il y a quelque chose. Et il y avait en effet quelque chose. Et quelques instants après, nous avons pu faire la Sainte Cène. Et il y avait un certain personnage qui est sorti, qui était là. Et je ne le savais pas, je ne le voyais pas. Il est sorti. Et lorsqu'il fut sorti, il nous fut possible de faire la Sainte Cène. Et quand ce personnage est rentré après, au moment de la prédication, eh bien, le Saint-Esprit a bousculé ma prédication entièrement et m'a empêché de dire ce que j'avais à dire, ce que j'avais prévu. Et j'ai dit autre chose. Et le Saint-Esprit m'a fait prophétiser. Et l'homme qui avait été cet empêchement s'est approché près de la chair à confesser son péché. Et a donné sa vie et son cœur à Dieu. Voilà comment le Saint-Esprit est libre d'agir, n'est-ce pas? Et je vous assure que notre culte a été bousculé. Une autre fois, il a été bousculé parce qu'il y a quelqu'un, un homme, qui est entré dans une espèce de crise et il était sous le coup d'un démon. Ah, je vous assure que ça a fait du désordre. Mais nous avons tout interrompu, nous sommes descendus, et puis, au nom de Jésus, nous avons chassé le démon, c'était le moment, et le démon est parti. Et nous avons continué notre culte. Et du temps de Paul, eh ben, il y a quelqu'un qui tombe de la fenêtre et qui se tue, et qui meurt. Eh ben, on va le chercher en bas, par la puissance de Dieu, on le fait revenir, à la vie, on le ramène, et on continue la réunion. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est maître, pas d'une façon théorique, mais il faut que le Saint-Esprit puisse rester maître. Et là, Marthe, en somme, ne voulait pas que le Seigneur, c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était là, en personne visible, c'était le Fils, c'était Dieu qui était là. Eh ben non, elle voulait, elle, que son petit programme passe avant. Vous voyez comme c'était une chose, n'est-ce pas, absolument inacceptable. Il faut savoir réduire les soucis terrestres et briser même l'exigence des habitudes et puis ne pas être distrait. Le diable ne vient pas toujours avec des choses horribles, épouvantables, pas du tout. Il vient tout simplement nous distraire.
Oh, il est très fort dans l'art de distraire, d'accaparer la pensée, de détourner la pensée de Dieu, et puis de nous dire, tu sais, c'est que moi je peux t'indiquer toutes sortes de moyens de servir ton Dieu, tu vas voir. Tu vas te déployer de ce côté-là, t'employer par là, tu vas mettre tout en dessus-dessous, tu vas travailler. Puis pendant ce temps-là, ton âme va sombrer. Oui, c'est ça. Marthe fait un reproche. Elle fait un reproche au Seigneur qui est au verset 40. Elle survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien ?» que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Ce reproche, remarquez ceci, c'est qu'elle ne l'adresse pas directement à sa sœur. Elle aurait pu dire, dis Marie, écoute, tu es resté un temps là, bon ben viens un petit peu m'aider, pas hein? Non, c'est à Jésus qu'elle l'adresse. Elle fait juge le Seigneur de l'attitude de sa sœur. C'est le Seigneur qu'elle prend pour juge. Et c'est à elle qu'elle demande d'intervenir. Cela montre suffisamment, sa parole montre suffisamment que son cœur était à ce moment rempli d'une certaine aigreur. En voyant l'insouciance de sa sœur, qui lui laisse tout le travail. Ah, que deviendrait notre souper si moi, Marthe, j'en faisais autant, si moi aussi je m'asseyais au pied du Seigneur, alors qu'est-ce qu'il prend le souper? J'aurais rien à manger. Ah. Notons ceci, c'est que l'apostrophe de Marthe, car c'est une véritable apostrophe, l'apostrophe de Marthe vient tout simplement de la chair. Pourtant, c'est pas Marthe n'est pas n'importe qui, elle aime le Seigneur, elle est aimée du Seigneur, mais c'est la chair. C'est la chair qui parle. Et cette apostrophe se ressent d'un certain dépit et même d'une certaine colère intérieure. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Cela ne te fait-il rien? N'est-ce pas quelque chose de scandaleux? N'est-ce pas quelque chose d'outrageant? Dis-lui donc de m'aider. C'est la chair. Ainsi, le trop d'importance que Marthe a attaché aux occupations matérielles, l'a fait dériver et c'est la chair qui en elle prend la parole. Et il en est souvent ainsi entre les membres d'une famille, n'est-ce pas, où là aussi l'excès d'activité, de fébrilité dans les occupations matérielles, dans une famille, alors cela amène souvent de regrettables vivacités. On se parle avec une langue de vinaigre, n'est-ce pas? On se parle durement, on est en colère. Tandis que, si la préoccupation dominante dans un foyer, dans une famille, ce sont les choses du ciel, alors la paix règne. Hein? Ce n'est pas l'agacement, ce n'est pas l'énervement, la vivacité, c'est la paix. La paix règne, la douceur. Pourquoi ? Parce que les cœurs sont plongés dans l'humilité. Quand on est en méditation, en prière, les cœurs sont là où il faut, dans l'humilité. Les cœurs s'abaissent devant le Seigneur, et c'est alors la paix qui règne dans la maison. Chers amis, remarquez bien ceci. Là, dans toute maison chrétienne, où il y a cette agitation, cette fébrilité, il y a des énervements. Il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis, dans une maison qui est vraiment consacrée, où l'on donne priorité à la parole de Dieu, il y a la sérénité. Ah, c'est le ciel. C'est le ciel qu'on y trouve. Et deuxième remarque à faire concernant le reproche de Marthe, c'est que Marthe adresse son reproche non seulement à sa sœur, mais au Seigneur lui-même. Le Seigneur en prend une part. C'est au Seigneur lui-même, en effet. Cela ne te fait-il rien? Cela devrait te faire quelque chose. Pourquoi ça ne te fait rien? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu laisses faire? C'est un reproche au Seigneur. Vous voyez comme n'est-ce pas, il y a la colère dans le cœur de cette Marthe. Ça ne te fait-il rien, Seigneur? Mais comment, par ta réception, Marthe, tu voulais honorer le Seigneur, tu voulais lui montrer le respect que tu professes à son grand nom. Et t'as oublié ça? Et voilà maintenant que tu parles au Seigneur d'une façon bien légère. Ça ne te fait-il rien, Seigneur? Ah, ça ne te fait rien, tu n'y penses pas, toi, au travail que j'ai, moi, pas à toute la tâche qui est sur mes épaules, à la fatigue que je suis en train d'accumuler. Enfin, on ne m'aide pas. Voyez-vous, ça ne te fait-il rien? Elle prend Jésus à témoin de son bon droit, de ce que son mécontentement est légitime. Elle a raison, elle a raison. La chair a raison, la chair a toujours raison. Son mécontentement est légitime. Son grief à l'égard de Marie, sa sœur, est juste. C'est juste. Cela ne te fait-il rien? Enfin, tout de même. Et le Seigneur, lui, devrait le reconnaître. Il devrait reconnaître que le grief de Marthe à l'égard de Marie est juste. Il devrait reconnaître. Il devrait réprimander Marie. Il devrait la faire lever comme une indolente, comme une insouciante. Jésus n'est-il pas le maître qui ne peut que rétablir la justice et veiller à l'ordre moral? Cela ne te fait-il rien, Seigneur? Pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi laisses-tu faire? Tout ça, c'est pas beau, tout ça, c'est la chair. Vous voyez comme la chair, n'est-ce pas, en furie, la chair en ébullition, hein, la chair et qui est contre l'esprit. La chair est toujours contre l'esprit, chers amis, nous le voyons là, dans cet incident, la chair contre l'esprit. La chair ne sera jamais pour l'esprit, la chair est toujours contre l'esprit, il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Alors si nous sommes empoignés par la chair, eh bien, nécessairement, nous-mêmes, nous, chrétiens, disciples du Seigneur, avec la chair, si la chair domine, si la chair nous empoigne, nous allons lutter nous-mêmes contre l'esprit. Ah, voilà qui est à penser. Il arrive que nous prenions nous aussi le Seigneur à témoin, quelquefois, nous prenons quelquefois aussi à témoin de nos revendications, de nos refus, de nos protestations, de ce que nous avons estimé, nous, juste et nécessaire. Mais la pensée du Seigneur, elle est tout autre. Il ne nous approuve ni ne nous suit. La pensée du Seigneur est autre que notre pensée. C'est toujours le Seigneur, l'Esprit, la pensée de l'Esprit. Tandis que nous, n'est-ce pas, quand nous venons avec notre chair, armée de son sentiment de légitimité, de justice, de raison, nous avons raison, la chair se donne toujours des raisons, nous avons raison. Alors Seigneur, attention dans les prières, attention dans nos prières, humilité, abaissement de la chair, les prières, nous aurons l'occasion de le dire, sont des prières de l'esprit, parce que la chair n'y prendra jamais part et ne doit pas y prendre la plus petite part. On entend souvent des prières, on entend souvent, pas, ça arrive, des prières qui sont inacceptables et qui ne pourront jamais, jamais, vous m'entendez, être exaucées, parce que la chair y a mêlé son grain. La réponse de Jésus à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et Marthe n'a pas gain de cause devant le Seigneur Jésus. C'est elle qui, à son tour, va se voir et s'entendre réprimander.
Sans doute, le Seigneur Jésus, en arrivant dans sa maison, avait accepté de souper, peut-être, je vous dis, d'y faire étape pour la nuit, peut-être avait-il, connaissait bien cette maison, il avait accepté pour lui et ses disciples, et sans doute aussi, Marthe avait-elle raison de s'affairer à la préparation de ce souper. Nous le disions tout à l'heure, elle aimait le Seigneur l'aimait autant que sa sœur et que son frère Lazare. Mais voici la réponse du Seigneur. Marthe, Marthe, pourquoi cette double interpellation? Marthe, Marthe, c'est comme un avertissement. Il ne dit pas simplement Marthe, mais Marthe, Marthe, comme un avertissement. Attends, cela veut dire, attention, Marthe, tu laisses ton cœur s'enflammer, tu laisses ton dépit devenir passion en toi et tu ne te domines plus. Les dispositions actuelles de ton cœur ne sont pas bonnes. Lui qui lit dans les cœurs, il ne regarde pas seulement à l'extérieur des choses, il lit dans les cœurs. Les dispositions de ton cœur ne sont pas bonnes. Notons une chose, c'est que nous avons dans l'Évangile une interpellation double comme celle-là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, c'est cette interpellation que le Seigneur ressuscité, le Seigneur glorifié, adressa un jour à un certain homme, Saul, Saul, deux fois. Pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans Actes 9, 4. Pourquoi me persécutes-tu? C'était encore un homme dont le cœur était enflammé, celui-là. Ah, il faisait autre chose que Marthe, bien sûr, c'était d'autres circonstances, d'autres raisons, c'est certain. Mais c'était la même chose. Voilà un homme, n'est-ce pas, qui était mu par sa chair, emporté par la méchanceté de son cœur. Ah, il était engagé dans la lutte contre cette secte chrétienne. Il fallait absolument la piétiner. Et il allait à Damas avec tous les pouvoirs pour mettre à raison ces misérables disciples de Christ, de Jésus. Saul, Saul, deux fois, pourquoi me persécutes-tu? Et ici, Marthe, 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 c'est une interpellation. Attention, tu n'es pas dans la bonne voie. Attention, tu es en proie toi-même aux pensées et à la passion de ta chair. Le tort que Jésus va reconnaître à Marthe, c'est celui-ci. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu t'occupes de trop de choses. Tu amplifies la tâche toi-même, tu l'augmentes, tu y ajoutes un superflu inutile, des choses qui ne sont pas du tout nécessaires. Tu donnes des soins excessifs à ce repas, qui te demande alors, bien sûr, bien trop d'efforts. Tu augmentes toi-même la tâche, inutilement. Si la grande chose nécessaire, celle du salut de ton âme, pour laquelle moi, ton Seigneur, je suis là. Je suis venu là. Salut ton âme, ça c'est la chose nécessaire. Eh bien, si cette chose nécessaire occupait ta pensée et ton cœur, tu mettrais moins de zèle aux choses présentes et passagères. Tu t'inquiètes, dans ton cœur, il y a toutes sortes de désirs qui, ensemble, veulent se manifester. Tu t'inquiètes de ces choses qui mobilisent ta pensée, qui te troublent et qui t'agitent. Tu es agité, tu es dans un état nerveux même, n'est-ce pas? Trop d'importance est donnée à ces choses, et tu perds le calme de ton âme, comme aussi la douceur
de ton caractère. Tu perds tout cela. Voilà. Voilà ce que, le tort que Jésus lui reconnaît. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, lui dira-t-il. Une seule chose. Et c'est précisément celle que Marie a choisie. C'est elle qui a choisi le nécessaire. Toi, tu crois être dans la chose la plus urgente, la plus nécessaire. Tu crois? C'est elle qui a choisi la chose nécessaire. L'unique chose nécessaire qui éclipse toutes les autres nécessités. Marie l'a choisie, et cette chose nécessaire, c'est d'écouter la parole de Dieu, de rechercher la grâce et la paix en elle, en cette parole. Rechercher la grâce de Dieu et la paix de Dieu dans la parole, dans l'écoute de la parole, dans le fait de recevoir la parole dans son cœur. La véritable nécessité, elle est là. Les nécessités de l'existence actuelle disparaissent devant la grande nécessité, celle de l'âme et de la vie éternelle en présence de Dieu. Si Marthe avait voulu entendre la parole, le Seigneur ne lui eût rien dit, alors le dîner en aurait réellement souffert. Vous savez que Dieu sait pourvoir. Dieu fait des miracles, non seulement des miracles éclatants, mais des miracles dont on voit souvent que tout à coup, le résultat, tiens, tout est là, tout est prêt. Il m'a été donné à moi personnellement, chers amis, et à ma compagne, un jour, d'être nourri d'une façon miraculeuse. Vous n'allez peut-être pas vouloir me croire. Vous serez des méchants si vous ne me croyez pas. Il ne m'a été donné d'être nourri par le Seigneur. Il nous a été donné un jour, je l'ai déjà raconté, je crois, que nous étions venus, n'est-ce pas? Et c'était dans l'église de Castres. Elles sont plus là, nos sœurs de Castres, là. Ah, il y a encore une, oui. Dans l'église de Castres, avec Monsieur Falco. Et il n'y avait rien du tout, on ne nous attendait pas, et nous venions à quatre. J'étais venu dirigé par le Seigneur, parce qu'il était un peu malade, souffrant, et il avait besoin de quelqu'un pour son culte. J'arrive juste à son culte, sans prévenir. Le Seigneur m'avait dit, voilà. Bon, alors en faisant le culte, puis Madame Falco nous dit, il faut que vous veniez manger à la maison, vous savez, il n'y a rien. Et il y avait la belle-mère, Monsieur Falco, qui était là, c'est elle qui s'était occupée de la cuisine, elle dit, j'ai rien, un tout petit peu de pâte. Je n'ai que ça, un tout petit peu de pain. Eh ben, je lui dis, écoutez, faites chauffer ce petit peu de pain, on en prendra chacun sa petite part. Et puis voilà. Et puis, nous causons, mais les pâtes, je sais pas où, enfin, et puis, au bout d'un moment, étonnement, ébahissement de tout le monde, nous avions un plat de pain énorme, on en a mangé, il y avait encore une autre invitée, nous en avons tous mangé, nous en avons tous bien mangé, on en a laissé. Le Seigneur a fait multiplier ses pâtes. Et je vois encore la belle-mère de Monsieur Falco aller dans le buffet et prendre le paquet de pâtes. Elle n'en avait mis qu'une partie du paquet et l'autre partie restait bien dans le paquet. Et elle en avait mis une toute petite partie. Ça avait donné un plat de pâtes et ils en avaient déjà mangé un peu dessus. Chose extraordinaire, sublime. Alors le Seigneur aurait pourvu, le Seigneur pourboit toujours. Quand nous donnons la préséance à la parole de Dieu, n'est-ce pas, et que nous nous approchons du Seigneur, et que nous sommes vraiment le consacrer à la chose nécessaire qui est le salut de notre âme, et qui est l'adoration de Dieu, eh bien, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit, comptons sur lui, on ne mourra pas de faim. On ne mourra pas de faim. Le Seigneur l'a bien enseigné. Ces choses, Dieu vous les donnera par-dessus, il vous les donnera en plus. Mais Marthe ne savait pas ces choses-là, et elle croyait qu'il fallait faire face aux nécessités de bouche, aux nécessités domestiques, au-dessus de la grande nécessité, celle de l'âme. Il faut qu'il y ait donc priorité et préséance à la parole de Dieu, et cette préséance accordée à la parole de Dieu sur les activités humaines, ça correspond à la préséance de la grâce sur les œuvres humaines. Préséance de la grâce au-dessus de tout, la grâce nous en vivons, La grâce nous est donnée abondamment, que la grâce vous soit donnée abondamment, disent les Épîtres. La grâce et les œuvres, ça vient en arrière,
ça vient derrière. Marie a choisi la bonne part. Jésus refuse donc d'obliger Marie à aider sa sœur Marthe.
Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe ne croit pas que je vais dire à Marie de se lever et d'aller t'aider. N'y compte pas. Elle a choisi la bonne part, elle va la garder. Non seulement maintenant, la parole du Seigneur a un double sens. Elle lui sera point ôtée, cette bonne part. Je ne vais pas intervenir pour lui dire de cesser d'écouter la parole de Dieu. Non, n'y compte absolument pas. C'est la bonne part, elle la garde. Elle lui sera pas ôtée maintenant. Elle ne lui sera pas non plus ôtée dans l'éternité. Parce que Marie a pris la position du disciple du Seigneur. Et elle gardera cette bonne part jusqu'en vie éternelle. Elle est là, elle est venue près du Seigneur, elle est venue prendre, saisir dans sa parole la paix, la joie, l'éternité. Cela ne lui sera pas ôté, ni maintenant pour ce souper, ni plus tard, ni jamais. La bonne part, elle la gardera jusqu'en vie éternelle. Et je terminerai en vous citant les paroles d'un psaume, le psaume 16, versets 5 et 6, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Voilà la bonne part qui ne sera jamais ôtée à celui qui a su la saisir. Amen.